Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Je suis de retour de la Martinique et je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Alors, d'abord, je souhaitais enregistrer ce podcast là-bas, mais j'ai préféré ne pas le faire pour une raison que j'étais occupé. Vous allez le comprendre en long, en large et en travers. Et aussi que niveau audio, je pense que le fait d'avoir les vagues, d'avoir des gens autour, ça aurait été sympa à peu près 2 minutes. Mais qu'après, ça aurait juste rendu l'épisode compliqué à écouter. Et puis, il y avait aussi une question d'énergie, au-delà d'être occupé. C'était dur de trouver l'énergie d'enregistrer un podcast. Donc voilà, j'ai préféré plutôt vous mettre dans une ambiance auditive. Donc j'ai pris quelques audios que je vais passer. Soit je vais faire une intro un petit peu mise en bouche, toi, je le mettrai, je sais pas, en outro, ou je ne sais pas encore ce que je vais faire, puisque pour l'instant, j'enregistre l'épisode. Mais voilà, je vais essayer de vous mettre dans une ambiance quand même qui ressemble à la Martinique, en tout cas qui vient de la Martinique, qui ressemble, je sais pas, mais qui des sons qui seront enregistrés de là-bas. Et puis sinon, l'épisode sera enregistré en clair, je pense que ce sera mieux. Déjà que je suis pas très satisfait de la qualité des épisodes. Il faut peut-être que je rachète un micro, mais voilà, au moins on a quelque chose qui est de l'ordre de qualité, d'habitude. Alors, comment je voulais faire ce podcast? Je me suis posé beaucoup de questions, évidemment, du coup, en vivant les choses, je me suis dit, tiens, ça va être marrant, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et au début, je voulais faire quelque chose vraiment dans l'esprit d'apporter quelque chose du point de vue... logistique, expliquer, parce qu'on me pose beaucoup de questions, expliquer sur ce qui s'est passé, enfin non, pas ce qui s'est passé justement, comment ça s'est passé, comment je me suis organisé, qu'est-ce que ça fait de former à l'étranger, etc. Un point de vue vraiment professionnel. Et puis après, je me suis dit, ah, j'ai quand même, moi, envie d'exprimer des choses un peu plus personnelles, de l'ordre du tourisme, etc. Et puis finalement, je me suis aussi dit, en fait, ce podcast est une capsule temporelle pour moi, potentiellement pour d'autres, mais aussi pour moi. Et du coup, je vais quand même faire une partie un petit peu sur mon expérience au-delà de former à distance et de former en Martinique. Vraiment, mon tourisme en Martinique. Donc, ça va pas. Je ne vais pas faire une demi-heure sur quels endroits je suis allé voir, etc. Mais plutôt, voilà, globalement, l'expérience au-delà de la formation. Ce que je me suis dit, ce que j'ai vu avec 2-3 endroits qui m'ont interpellé. Donc c'est évidemment pas un podcast touristique, mais voilà, je vais faire quand même en 2 parties. Ce qui sera la première partie vraiment formation, logistique, comment ça se passe, et l'autre partie tourisme et développement personnel. Enfin voilà, expliquer cette aventure en général, ce que ça m'a apporté. Je pense qu'on se rapproche d'un format que je voulais faire. Et du coup, cette fois, pour ceux qui étaient adeptes des différentes parties, des différents chapitres, j'ai un petit peu arrêté parce que ces derniers podcasts, soit je manquais de temps, soit je faisais un sujet, un podcast. Et là, cette fois, il y aura de nouveau les chapitres avec un chapitre vraiment faire une formation loin, comment ça se passe au niveau logistique. Et l'autre partie, tourisme, développement personnel, parce que là, je peux largement comprendre que vous veniez chercher soit l'un, soit l'autre. Voilà pour cette petite introduction. Et nous allons maintenant pouvoir commencer par la première partie. Formation, logistique, comment ça se passe? Parce que beaucoup m'ont demandé, beaucoup sont curieux et je trouve que c'est l'opportunité pour moi d'expliquer un peu j'allais dire la logistique de A à Z, mais je ne suis pas spécialement préparé. Là, j'ai pris quelques notes, mais voilà, je vais pas. C'est pas une formation sur la formation que je vous fais, c'est plus un retour d'expérience et essayer d'expliquer comment ça se passe de mettre en place tout ça. Alors, tout commence avec une relation avec un organisme de formation que je vais appeler OF, Je le rappellerai un petit peu que OF veut dire organisme de formation. Mais voilà, je commence à me dire ça dans ma tête parce que c'est long et compliqué de dire organisme de formation. Donc, tout commence avec moi qui démarche des centaines d'OF il y a un an et qui essaye de vendre mon sujet sur la confiance qui est mon sujet de thèse. Cette OF-là me répond que c'est intéressant. On a un premier rendez-vous, un deuxième. Et au troisième, on signe. Bon, on s'en fiche si c'est exactement ça, mais dans l'ordre d'idée, voilà, on se voit, oui, c'est intéressant, voilà à quoi ça pourrait correspondre, voilà comment on pourrait le vendre, etc. Et donc, je finis par avoir un rendez-vous dans les locaux de cette OF, que je ne vais pas citer, parce que comme d'habitude, je ne lui ai pas demandé et j'ai pas vraiment envie de faire ça. En fait, j'aimerais être transparent, mais j'ai pas envie d'être celui qui, à chaque fois qui rencontre quelqu'un de manière commerciale, dit « Est-ce que je peux parler de toi dans mon podcast ?» En fait, c'est ça le truc. Donc, on va dire que je vais un petit peu lâcher cette envie d'être totalement transparent, juste parce que dans la vie, la vraie vie, la vie normale, pas la vie du podcast, et bah voilà, je préfère vivre les expériences puis les raconter plutôt que devoir rompre à chaque fois le courant des discussions. Voilà, c'est pas mon style, tout bonnement. Comme un petit peu le fait de devoir prendre une photo avec les formés, c'est pas mon style. Donc, j'aime pas dire on prend une photo pour mon LinkedIn. J'expliquerai d'ailleurs un peu comment ça s'est passé, cette réflexion autour de la communication, de la formation. Je sais pas où est-ce que c'est. Ouais, ça fait peut-être partie de cette partie. Bon, on verra. Donc, ça débute avec un contrat, avec un OF qui me dit bah. Nous, on commercialise ton sujet, c'est-à-dire on a des commerciaux qui vont essayer de trouver des personnes qui sont intéressées. Ces commerciaux-là sont globalement en relation avec des responsables de formation ou des directeurs d'hôpitaux. Et voilà, ils sont en contact avec eux et ils essayent soit de recueillir les demandes, soit des fois de proposer. Ce sujet de formation qui est la confiance entre les professionnels de santé et les patients. Donc, on signe un contrat, les commerciaux font leur travail, et un jour, il y a un commercial qui me dit, bon, on a quelqu'un qui est intéressé pour faire une formation en physique, et ce sera en Martinique. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je dis oui. Et donc, ok, bah, on lance la démarche. Donc, à partir du fait où du moment où moi je dis oui, et bah il y a une relation, un espèce de triptyque qui commence entre l'OF, l'organisme de formation, mais surtout le commercial avec qui je suis en relation dans cette OF, la responsable pédagogique de la structure et moi. Logiquement, l'OF et la structure, l'hôpital, sont en communication jusqu'à ce que moi je doive vraiment être important, c'est-à-dire que moi je dis j'arrive à telle heure, je fais tel truc, etc. Là, ça s'est plutôt passé comme ça aussi, c'est-à-dire que d'abord c'est le commercial qui essaye voilà de vendre ma formation, etc. Et quand la responsable pédagogique commence à être un petit peu intéressée, bah là on commence à me mettre dans la boucle des mails, on commence à me dire quelles seraient tes disponibilités, etc. Et je transmets mes disponibilités. Le commercial et la responsable pédagogique se mettent d'accord sur un tarif, sur le nombre de personnes, le nombre de groupes, sachant que le tarif, moi, a été prénégocié avec l'OF. C'est-à-dire qu'avec l'OF, dans le contrat, il y a le jour où vous vendez ma formation, ça coûtera à peu près X euros par personne. Encore une fois, là, c'est con. Enfin, si, encore une fois, pardon. Je ne vais pas donner les détails, mais cette fois-ci, c'est contractuel, hein. Et puis, par défaut, voilà, je ne donne pas mes prix. Par contre, je peux donner mon CA quand je peux assez noyer le poisson. Mais voilà. Là, ce que je peux dire qui est intéressant, c'est que parfois, on peut, en tant que formateur, on peut vous payer à la journée ou parfois, on peut vous payer selon le nombre de personnes qui sont inscrites. Et donc là, c'était plutôt comme ça. Donc, c'est X euros par personne. Et donc, ils négocient, je pense qu'ils arrondissent les angles. Voilà, moi, j'ai un ordre d'idée qui a été établi avec l'OF. Ensuite, c'est au commercial de monter, baisser, tout en restant dans les critères de ce qui a été signé entre moi et l'OF. Mais sinon, on en discute. Bref, chacun fait son travail. Une fois que c'est négocié, qu'on a à peu près les dates, enfin, qu'on a les dates hein, d'ailleurs, l'OF fait un contrat dont je ne connais pas la nature, que j'ai pas vu parce que c'est pas vraiment ma relation. Hein, là, dans ce petit triangle relationnel, bah, il y a des choses qui se font que deux à deux, et c'est pas mon rôle de voir ce contrat-là entre l'OF et l'hôpital. Mais donc l'OF et l'hôpital contractualisent ce truc-là, et ensuite l'OF me dit, c'est bon, on y va. C'est-à-dire, c'est bon, il faut que tu payes tes billets, tu vas aller en Martinique. Alors, ce qui a été un peu étrange pour moi, c'est que bah, j'aurais bien aimé voir ce contrat, même si c'est un contrat entre, enfin, qui ne me concerne pas. Eux, ils contractualisent le fait qu'ils envoient un consultant. Mais voilà. Et du coup, moi, c'est vrai que, comment ça a été perçu? Bah, ça fait peur de se dire, voilà, par un mail, bon, c'est bon, tu pars en Martinique, prends tes billets d'avion, etc. Donc moi, j'ai demandé un mail, un peu de confirmation, qui est écrit sur un mail, oui, c'est bon, nous certifions que le contrat a été signé et que tu y vas. J'ai pris l'habitude comme ça de me pré-protéger par des mails, en statuant bien clairement certaines choses d'une relation. Et c'est pas une notion de méfiance, c'est plutôt un besoin de contrôle et de peur de se faire avoir par n'importe qui. Donc en fait, c'est de la méfiance général, et c'est pas de la méfiance du tout envers l'OF, c'est juste des conseils qu'on m'a donnés, que je suis très content d'appliquer, qui est de toujours assurer ses arrières. Donc voilà, essayez d'avoir un mail où on dit oui, nous validons bien que ça a été signé, et que tu pars bien en Martinique de tel jour à tel jour. Dans tous les cas, ce sujet-là, avec les entreprises et d'autant plus les OF qui sont bah, des structures qui ont l'habitude de travailler avec des formateurs, avec des externes, etc. Ils comprennent bien ce jeu-là. Hein. Donc, en fait, des fois, il y a un peu des envois de mails où implicitement, ça fait je suis en train de te dire ce que nous avons dit au téléphone pour statuer objectivement la chose. Est-ce que tu veux bien me relancer clairement pour jouer à ce petit jeu-là avec moi aussi? Et l'autre dit oui, très clairement, je statue également semi-officiellement ce que nous venons de dire. Clin d'œil. Ça, c'est l'implicite. Et l'explicite, c'est. Bonjour, pour confirmer, vous partez bien en Martinique de tel jour à tel jour. Et l'autre dit, oui, je confirme bien que ça a été signé et que vous partez en Martinique. Voilà, donc c'est un jeu qu'on connaît. Voilà, tout le monde est content de faire les choses proprement et d'avoir une preuve en quelque sorte que le contrat est bien signé et que je dois y aller. Alors ça, c'est la première étape. Enfin, il y a deux étapes. La première, c'est d'être associé à un EF. Et le deuxième, c'est que l'OF nous trouve un client. Une fois qu'il trouve un client, il m'envoie, il me dit c'est bon, maintenant organise-toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est que je me dis ok, il faut que j'aille en Martinique. Mais ça coûte environ hôtel et avion compris, ça coûte environ 2000 euros. Donc j'aimerais ne pas avancer ces frais, sauf que c'est l'hôpital qui rembourse les frais. Mais une fois que la prestation est finie, ce que je peux comprendre, il leur faut une facture. Je ne peux pas facturer quelque chose que j'ai pas payé. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une avance de frais de la part de l'OF, l'organisme de formation. Donc, en fait, l'OF me dit, nous, on ne peut pas défrayer non plus, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et pareil, hein, j'en veux à personne. Je sais que les cadres administratifs, législatifs et comptables sont assez complexes en France pour que je ne sois pas connaisseur de tout ce qui se passe. Et on me dit, voilà, nous, on ne peut pas. Je comprends, c'est une question de ligne, c'est une question d'impossibilité. Par contre, ce qu'ils ont le droit de faire, c'est me faire une facture qui est pour la ligne comptable. Donc tout ça est légal. Hein. Je vais le dire un petit peu en mode ça fait bah ça fait illégal, mais non, c'est légal. C'est juste voilà comment je l'ai compris. Hein. Ça se trouve je l'expliquerai mal pour les comptables qui sont là. En gros, ils me font une facture d'avance de frais, mais que eux considèrent comme quelque chose qu'ils vont enlever de la rémunération totale. C'est-à-dire imaginons que, je vais dire quelque chose où on est sûr que ce n'est pas le cas. Imagine que ça coûte 100 000 euros. Que bon, voilà, je n'ai pas touché 100 000 euros. Voici le seul indice de rémunération que je peux vous donner sur ce contrat. Imaginons que le tout coûte 100 000 euros et que je leur dis, bah, l'avion me coûte 2 000 euros. Enfin, l'avion et l'hôtel me coûtent 2 000 euros. Et bah, ils vont me faire Bah, je leur dis déjà avant de l'acheter, je leur dis, bon, je pense que ça va me coûter 2000 euros. Ils me disent, enfin, ils m'envoient donc 2000 euros et disent, d'accord, donc maintenant, quand tu reviendras de Martinique, on t'enverra plus que 98 000 euros. C'est-à-dire qu'eux ne me font pas une avance, c'est pas comme s'ils allaient me donner 100 000 plus le défraiement. Parce que eux, du coup, de leur point de vue, c'est comme une avance qui sert à payer les frais, mais qui est perçue comme une avance par rapport au prix de la prestation. Et ensuite, c'est à moi d'aller voir l'hôpital pour dire, bah, le tout m'a coûté 2000 euros, est-ce que vous pouvez me rembourser? Ce qui fait que l'OF me donne 2000 et me doit en gros 98 000. Quand je rentre de la Martinique, je reçois les 98 000 de l'OF. Oui, 98 000 de l'OF. Et j'aurais bien aimé avoir un schéma, donc c'est là où j'aurais peut-être dû faire cet épisode en vidéo. Mais donc, j'ai 98 000 de l'OF, et ensuite, je demande à l'hôpital de me rembourser les 2000. Ce qui fait que, en tout et pour tout, j'aurais rentré 102 000, et j'aurais dépensé 2000 pour le déplacement, ce qui fait que je suis bien rentré dans mes 100 000 avec du défraiement. J'espère que c'est clair. Franchement, avec un petit, imaginez-vous un petit schéma avec un petit triangle et ça passe bien. Sachant que dans les 100 000, bah en fait, c'est l'hôpital qui paye l'OF, puis l'OF me paye parce qu'il y a un deal avec l'OF qui est qu'on se sépare en termes de pourcentage de CA. Donc, pour vous refaire un tour un petit peu différent du triangle, l'OF dit à l'hôpital, nous, on coûte X euros par personne. L'hôpital dit OK. L'OF me donne un peu de sous pour que je puisse me déplacer sans perdre d'argent. Je forme tout le monde, tout le monde est content, c'est sympa, tout le monde est heureux. Je rentre en France, enfin je rentre en métropole. Je dis à tout le monde, ça s'est bien passé, j'ai formé X personnes. Donc l'hôpital donne le nombre de personnes fois le nombre d'euros qui a été négocié à l'OF. Et l'OF me redistribue un certain pourcentage. Un certain pourcentage moins ce qu'ils m'ont déjà donné pour défrayer mes déplacements. Bon, voilà, je ne vois pas comment mieux rappeler si ce n'est de faire un schéma. Mais voilà, en gros, il y a une vraie relation, qu'elle soit financière ou logistique, entre l'OF, moi et l'hôpital, sachant que moi, je suis représenté par moi. L'OF, l'organisme de formation, est représenté par un commercial, et puis j'ai pu avoir d'autres personnes hein, tout le long du truc, et l'hôpital est représenté par un responsable de formation. Voilà comment ça se passe. Donc ça, c'était pour les frais, etc. Donc là, maintenant que je suis rentré, j'allais redire en France, mais je préfère faire le point maintenant en attendant de potentiellement refaire l'erreur après. Je sais très bien que c'est une région française. En revanche, en ayant discuté avec eux, et de par un ressenti aussi, eh ben, ils sont très à l'aise avec le fait de dire nous en Martinique et vous en France, et le fait de dire ouais, la France, c'est un peu égal à la métropole. Et je peux comprendre leur point de vue parce que c'est vrai que c'est une île magnifique qui a beaucoup de points de différence avec la métropole. Donc, mes excuses pour ceux qui sont choqués du fait que je dise ici en France quand je parle de la métropole, mais en fait, ça correspond à la manière de parler que bah, des gens que je suis allé voir. Donc, moi, je me sens totalement bien avec cette manière de faire et pas raciste, comme un ami m'a dit quand je lui ai dit ça. Tu te reconnaîtras. Tu es le seul à écouter ce podcast, je pense. Non, je rigole. Bref, salut, le C. Donc, voilà. Je ne suis pas raciste, mais non. Donc voilà, si je dis la France, je parle bien de la métropole et ça correspond à la manière dont les Martiniquais m'ont parlé de la France et de la Martinique. Donc quand je reviens en France, clin d'œil, eh ben, là je dois dire à l'OF, rends-moi, enfin maintenant tu me payes ce que tu me dois de restant. Donc les 98 000 et non pas 100 000. Et je dis à l'hôpital, bah là, ça m'a coûté 2 000 et même ça m'a coûté allez, 2 200 euros parce que le vol a été plus cher, parce que j'ai pris tel resto. Est-ce que vous pouvez me rembourser mes frais? Ce qui fait que au bout d'un certain temps, je finis par bien avoir les 100 000 négociés, plus les 2 200 que j'ai dépensés. ce qui me fait un total comptable à 100 000 tout pile parce que j'étais défrayé de ce que j'ai fait. Voilà, je vais pas compléter plus sur le côté financier, si ce n'est conclure sur le fait que bah on n'a pas l'argent tout de suite. Moi j'aurais pu demander une avance. Là l'avance a été une avance de frais. Donc en fait moi j'ai attendu que l'OF me donne cette avance de frais pour payer mes billets d'avion en guise d'assurance que le contrat est bien payé. Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'entrepreneuriat, quand vous avez de l'argent, c'est que tout le monde est d'accord. Hein. On ne vous envoie pas de l'argent par erreur ou très rarement. Donc je savais que si on m'envoyait bien ces 2000 euros, c'est que c'est bon, le contrat était signé. Donc j'ai attendu de recevoir ces 2000 euros pour payer mes billets d'avion et l'hôtel. Pour tout vous dire, je dis 2000 pour arrondir, mais en fait j'ai demandé 1900. Et en fait, c'était quasiment le prix de l'avion et de l'hôtel, alors que c'était censé amortir le tout. Parce que entre le moment où j'ai regardé et le moment où j'ai pris, ça a modifié. Et j'avoue que c'était ma première facture d'avance de frais. Et donc je savais pas trop, et j'avais pas trop envie de mettre une somme extravagante pour pas qu'ils aient l'impression que je les arnaque. Enfin bref, ça fait partie des craintes des jeunes entrepreneurs. On a du mal à demander de l'argent. Donc je demande quelque chose qui est un peu serré, ce qui fait que là, aujourd'hui, j'ai perdu de l'argent à aller en Martinique. Mais on s'en fiche, ça fait partie du fonds de roulement. Et donc maintenant que je suis rentré, ce qu'il faut, c'est que je dise à l'OF, ça s'est bien passé, que je leur montre, il y a X personnes qui ont participé, parce que vu que je suis payé en fonction du nombre de personnes qui ont participé, eh ben, j'ai dû faire un émergement, de savoir qui a été inscrit et qui est venu. Et cet OF parle à l'hôpital et dit bah c'est bon, on a bien X personnes qui ont été formées, payez-nous. L'OF reçoit de l'argent de l'hôpital et puis l'OF me donne un pourcentage de ce que l'hôpital lui a donné. Voilà. Ce qui veut dire que pour l'instant, j'ai pas de rémunération. Ce qui veut dire que ça se trouve, le défraiement, il va prendre des mois et la rémunération aussi. C'est à moi et à l'OF de décider comptablement quand on fonctionne ensemble en combien de temps l'argent doit venir. Moi, je crois que par défaut sur mes factures, je mets 30 jours, mais je crois que l'OF a une politique de 60. Donc ça, c'est des trucs qui sont inhérents au fonctionnement comptable des entreprises. Et selon les personnes, il y a des comptables qui vont attendre la fin des 30 ou des 60 jours pour payer et d'autres qui payent directement. Ça, je ne suis pas dans la peau de ces personnes, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Je pense que c'est parce que c'est automatisé. Voilà, je vais en vouloir à personne, mais donc il faut quand même se dire qu'on reçoit pas l'argent tout de suite et qu'il y a une relation dans ce trio entre moi, l'hôpital et la formation, enfin l'OF, l'organisme de formation. Ce qui veut dire qu'en fait, ce trio il est représentatif de comment ça se passe tout le long. Quand je suis en Martinique, évidemment, on va plus faire un duo entre l'hôpital et moi, parce que c'est là où je rappelle, où je dis bon, c'est bon, je viens bien à telle heure, est-ce qu'on peut, comment ça se passe, c'est quelle salle, où est-ce qu'on mange, etc. Donc, pareil, pour ceux qui sont intéressés par ces questions, là, pratiquement, ça c'est. Donc, c'est un exemple hein, parmi d'autres qui peuvent se passer. On m'a dit tu vas dans telle salle, et tout est programmé, et donc. Le premier jour, je me suis rendu dans la salle et puis il y avait déjà du café chaud sur la table. Les repas étaient pré-commandés. C'était des plateaux repas. Donc à midi et demi, il y a quelqu'un qui toque et qui nous livre les repas. On mange dans la salle entre formés et formateurs. Et voilà, moi j'ai des heures qui m'ont été données qui sont 7h30, 15h30. Parce que, donc là, on rentre un petit peu dans la partie tourisme rapidement, mais en Martinique, de ce que j'ai compris, ils ont l'air de travailler plus tôt et de finir plus tôt, parce que aussi le soleil se couche très souvent plus tôt dans l'année, aux alentours de 18h, là, en février, le coucher de soleil commence à prendre effet, et à 19h, globalement, il fait nuit noire. Donc, entre la chaleur, entre le fait que le soleil se couche tôt, c'est vrai qu'il y a une vie qui se couche tôt et se lève tôt. C'est vrai qu'il y a une vie qui tend un peu plus vers le matin. Et donc, moi, j'ai les horaires, j'ai la salle, et maintenant, bah, je fais ma formation comme je l'ai programmé. Alors, du point de vue de, pareil, ce triangle, il y a quelque chose qui est changé et qui vient de moi, c'est le programme et le scénario et le déroulé pédagogique. Le programme, moi, je le construis, je l'envoie à l'OF, et l'OF s'en sert pour communiquer. Il le donne à l'hôpital, et l'hôpital, bah, le donne aux formés pour se rendre compte un peu de ce qu'il y a. Donc ça, je l'ai compris tard, mais c'est représentatif du monde de la formation. J'ai été face à des formés à qui on a réservé des jours de créneau et on leur a dit, vous êtes formés ce jour-là. On n'a pas dit quoi. Certains ont une fois dans l'année un document qui demande sur quel type de formation ils aimeraient être formés. Mais pas tous. Et en plus, c'est même pas forcément respecté. Donc, du point de vue des formés, cette fois, ils font leur travail. Un jour, ils regardent leur programme et ils voient formation. Et ils voient ça genre un mois avant. Et puis, une semaine avant la formation, ils voient le titre de la formation. Et moi, je reçois donc des gens qu'on a obligés à venir. Parce que s'ils ne viennent pas, c'est décompté, je crois, de leur salaire. Et en plus, là-bas, ils ont un fonctionnement de 12 heures heures de travail par jour. Et bah, moi, ma formation fait 7 heures par jour. Et donc, en fait, quand je finis ma journée à 15h30, eux, normalement, ils auraient dû continuer pour compléter jusqu'à 12 heures de travail effectif. Et vu qu'ils ne font pas, c'est des heures qu'ils vont rattraper. Donc, à d'autres moments, ils ont un crédit de 5 heures à rattraper. Et donc, je suis face à des gens à qui on a obligé de venir. On leur a parfois jamais demandé leur avis si ça pourrait les intéresser, et qui en plus perdent littéralement du temps, voire peuvent perdre du salaire en venant. Donc, mais j'en veux pas du tout à l'hôpital, hein, c'est malheureusement comme ça que ça se passe souvent. Et donc, y a plein de raisons, hein. Il y a des attentes institutionnelles, il y a le fait que ça se trouve, des gens étaient intéressés, mais il n'y avait pas assez d'intéressés pour me faire me déplacer. Donc, ils ont inscrit des personnes en plus, ce qui fait que c'est quand même pour former à la fin des personnes et intéressées et les former tout court sur un sujet qui est important. Peut-être que les gens ont tellement jamais le temps qu'ils n'ont jamais envie de se former, alors que c'est bien de les pousser un peu. Y a plein de raisons, hein. Moi, j'ai bien conscience que je fais partie d'un système qui est plus grand que mon opinion personnelle et que beaucoup de gens sont capables d'être bons dans leur travail, mais faire des choses qui ont l'air d'être injustes. Donc il n'y a pas de souci. En revanche, moi, en tant que formateur, bah, je suis face à des gens qui parfois sont pas là, enfin, n'ont pas envie d'être là et ne savaient à peine pourquoi ils étaient là, etc. Donc, bah, pour le premier groupe, donc j'ai eu deux groupes, la formation fait 2 jours, donc j'ai formé pendant 4 jours. Pour le premier groupe, je ne l'ai pas vu du tout. Ils m'ont expliqué ça et j'ai dit oui, bah, je sais que ça existe, parce que du coup, il y a un travail du formateur de se rendre compte de l'état et du pourquoi les personnes viennent dans la formation. Donc là, j'ai dit ok, je comprends, je sais que ça existe, il n'y a pas de souci. Mais j'étais quand même face à des personnes qui étaient investies dès le départ, qui étaient intéressées. Et qui avait vraiment envie d'en apprendre plus sur le sujet du relationnel et de la confiance avec les patients. Et avec eux, très vite, les activités se sont bien passées, très investis, à discuter beaucoup. Donc, limite, j'étais un peu en retard, mais je préfère être en retard parce que c'est plus facile de raccourcir que de rallonger. Et même c'est au niveau de ce qu'on apporte, c'est plus pertinent de raccourcir que d'allonger parce que je trouve que faire tirer une activité alors que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, c'est mal vécu pour tout le monde et pour moi aussi. Alors que une idée, je peux la transmettre en 1 heure comme en 5 secondes. En revanche, une fois que j'ai passé 1 heure et que j'ai vraiment fait le tour, réinventer une demi-heure dessus, c'est compliqué. Donc, enfin, il y a des théories que je peux vous expliquer rapidement, mais le sens de la formation, c'est pas juste d'expliquer, c'est d'expliquer, faire travailler, faire un exercice, 2 exercices, 3 exercices, faire un peu jouer avec les idées pour qu'on puisse bah, les apprendre dans différents contextes et faire travailler dessus. Donc, je préfère faire plein d'activités sur un même sujet que essayer de faire une longue activité, essayer de tirer les vers du nez aux gens. Par exemple, il y a une activité que je fais qui est un petit focus group sur le sujet du relationnel, où on est là pour échanger, savoir qui pense quoi du relationnel, quand est-ce que c'est dur, quand est-ce que c'est facile, quand est-ce que c'est utile, pas utile, pour que tout le monde puisse parler et que tout le monde puisse un peu se lancer dans le thème de la formation, un peu lancer son cerveau dans ce champ-là et voilà se mettre dans l'univers du relationnel et du sujet de la formation. Et c'est quelque chose qui a très bien marché, mais je le prends en exemple pour dire que bah, une fois que j'ai posé toutes mes questions et toutes mes relances, et que ok, peut-être que le truc devait durer 1 heure, mais qu'il a duré 45 minutes, bah, je vais arrêter parce que je vais pas, enfin, ça va sentir que j'ai reposé des questions, reformulées, etc. Alors que si, ce qui s'est passé avec le premier groupe, cette activité dure 1 heure au lieu de 45 minutes, eh bah, je préfère enlever un exercice. Plus tard, parce que des exercices, j'en fais plusieurs sur la même thématique, où je préfère, sur une thématique un peu plus secondaire, enlever l'exercice et juste faire de l'informatif. Mais voilà, moi en tout cas, je préfère être plus large que plus serré. Et ça a été plutôt le cas, dans la première formation, moins dans la deuxième. Mais c'est vrai que l'expérience était très, très enrichissante au niveau formation, parce que, je me suis laissé beaucoup d'espace d'adaptation. Et c'est ce que j'aime dans la formation. En revanche, c'est ce qui est extrêmement fatigant. Je voulais vous expliquer un peu comment on se préparait bien à une formation et du coup, ça peut m'aider à l'exprimer. Je m'étais préparé. Bon, évidemment, on prépare un diapo et on prépare un scénario pédagogique avec les grandes idées ou parties qu'on veut aborder et les modalités pédagogiques. Ce qui est bon de faire, c'est pour une partie ou une sous-partie, préparer plusieurs modalités pédagogiques. Et donc ça met du temps à préparer déjà, parce que ça veut dire qu'il faut imaginer pouvoir faire au minimum deux formations différentes. Moi, globalement, il y avait une version très numérique sur WooClap, qui est un site. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est assez connu, mais là-bas, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Donc, un site où je peux poser des questions, faire des brainstorming, etc., sur le téléphone, où chacun scanne un QR code et ensuite ils répondent sur leur téléphone. Moi, j'avais quasiment toute une version, pas WooClap, mais un peu numérique, etc. Et après, toute une version discussion, travail en sous-groupe. Et en plus, j'avais certaines thématiques qui étaient complémentaires, où je me suis dit, je les donne si j'ai du temps en plus. Et parfois une troisième modalité pédagogique quand je le sentais bien. Donc j'avais deux à trois modalités pédagogiques par partie, plus deux ou trois. En fait, il y en a une troisième qui est venue. Donc deux ou trois parties complémentaires. Ce qui fait que si on fait toutes ces potentialités et qu'en plus on se dit l'ordre des parties peut changer, eh ben, je suis face à une infinité potentielle, enfin c'est pas une infinité parce que je vais pas m'amuser à calculer, mais on pourrait calculer, mais à un très grand nombre de formations possibles en mélangeant l'ordre des parties, mais aussi les modalités pédagogiques par partie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui fait que du coup, moi, c'est assez excitant d'essayer d'être adaptable et de tester des modalités et de dire ah là ça passe, là ça passe pas, je vais essayer comme ça. Et aussi d'avoir une flexibilité en termes d'ordre de partie, c'est-à-dire, ah, mais là, par exemple, ce focus group, en fait, il est super intéressant, mais là, on vient de parler d'un sujet qui était normalement complémentaire, et je me dis, bon, là, il faut que je le donne parce que tout le monde a ce sujet-là dans leur tête, il faut que je m'en serve pour rebondir et leur apporter un outil sur le truc qui a pris 15 minutes sur le débat en groupe. Donc voilà. Moi, de mon point de vue, je me dis, ah, c'est cool, je vais pouvoir leur servir. Là, je leur ai mis en avant, enfin, je leur ai fait émerger une thématique sur laquelle j'ai une réponse théorique. Et donc, hop, je change tout mon truc. Sauf qu'après, toutes les parties se décalent. S'il y a des choses qui devaient être dites avant cette partie, bah, elles vont un peu tomber à l'eau après. Donc, je vais devoir zapper des diapos. Et donc, ça me lance dans vraiment un truc de chef d'orchestre, voire plutôt de game master. Comme si c'est moi qui gérais un jeu de rôle et que j'étais en train de me dire, OK. La personne, elle vient de décider de faire ça. C'était pas exactement dans mon plan, mais c'est intéressant. Comment je fais en sorte pour tomber sur mes pattes, etc. Et donc, vraiment, dans mon cerveau, c'est le bordel pendant 7 heures parce qu'il y a déjà essayé d'être clair. Et en plus, essayer de retomber sur ses pattes et de tout réorganiser pour que ça paraisse, enfin, pas que ça paraisse, pour que ce soit construit, cohérent et intéressant. Et que ça le paraisse, évidemment, mais là, je vise quand même à ce que ça le soit. Donc voilà ce qui peut se passer dans la tête d'un formateur, en tout cas de moi. Je crois que ça dépend des styles de formation, peut-être que ça dépend aussi du fait que je sois jeune et que à cette formation, bah, même si c'est mon sujet de thèse et que je maîtrise le fond, bah, la forme, je ne la maîtrise pas. Ce qui fait qu'il y a aussi des choses qui tombent à l'eau dans ce que j'avais prévu de faire, où je me dis, mais en fait, cette thématique-là... elle a déjà été abordée, ce truc-là tombe à l'eau parce que quand je fais 1 heure de discussion générale, bah, je ne peux pas 1 heure après faire 20 minutes d'une autre discussion sur un sujet parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc voilà, aujourd'hui, si je devais refaire un scénario pédagogique, il ne serait pas le même. Par contre, il serait tout aussi adaptable, mais avec une précision un peu plus fidèle sur le temps ou ce qui passe pas en physique parce que en fait initialement ce qui a été contractualisé avec l'OF c'était de faire une formation digitale à distance en visio et donc j'avais beaucoup d'activités bah en fait j'avais beaucoup d'activités qui étaient faites pour la visio. Et ben voilà, j'ai déjà réfléchi avant d'aller en Martinique comment je pouvais modifier les choses pour que ça marche mieux en physique. Mais bah, il faut tester quand même. Et on a beau réfléchir pendant des heures, ce qu'il faut à un moment, c'est tester. Ça me fait un petit peu penser à ce que j'entends des humoristes, parce que j'écoute beaucoup d'humoristes et d'interviews d'humoristes qui disent que. On peut commencer à avoir une science de la bonne blague, etc., mais qu'à un moment, il faut essayer la blague devant des gens, et que c'est pour ça ceux qui font du stand-up se testent dans des comédie clubs. Bah, je pense que dans la formation, il y a un peu de ça quand même. Il y a une science. On finit par être meilleur de plus en plus, et de pouvoir avoir besoin de moins de tests pour que l'activité fonctionne, mais à un moment, il faut tester l'activité, voir si ça marche et ça marche pas. Et en plus, c'est tellement plus simple parce qu'on le voit tellement tout de suite, une activité qui marche et qui marche pas, que ça mérite pas forcément de se prendre énormément la tête. Donc, si je devais conseiller des jeunes formateurs qui ont envie d'avoir des formations quand même adaptables, et bah, c'est de prévoir, de plus prendre du temps à prévoir différentes activités plutôt que de prendre du temps à en peaufiner une. C'est-à-dire que moi, je me suis déjà dit, là, on va faire un jeu, ça pourrait quasiment être un jeu de rôle et de complexifier les règles, alors qu'en fait, ça se trouve, ça va tomber à l'eau seconde 15 et qu'on n'aura pas de plan B. Vaut mieux avoir plein de plans qu'un très bon, parce que c'est très difficile de prédire si ça va fonctionner. En tout cas, là où j'en suis, et j'espère pouvoir vous dire dans quelques mois, ok, là j'ai compris, ça marche tout le temps. Mais sincèrement, je pense pas. Hein. Je pense que j'aurais affiné mon œil et que j'aurais besoin de moins de temps et de moins de plan BCD, mais que ce sera toujours dur à prédire une activité qui marche d'une activité qui marche pas. Et pourquoi? Bah parce que bah là, les activités qui ont marché pour le groupe 1 n'ont pas marché pour le groupe 2. Donc en fait, c'est un exemple. On est quand même sur un même sujet. Sur une même île, avec des personnes qui travaillent dans la même structure, qui sont, on va dire, randomisées, c'est-à-dire qu'ils sont dans un groupe plutôt aléatoire, parce que tout le monde ne se connaissait pas, ça a été fait plutôt dans une gestion logistique qu'autrement, et il y a des dynamiques de groupe qui sont très étranges, et en fait, mon groupe 2 était l'antichambre du groupe 1, c'est-à-dire... Mais c'est quasiment le type d'activité qui marchait avec le 1 marchait pas avec le 2 et inversement. Et même en termes de qualité des réponses, il y a des exercices qui ont été très bien réussis. Enfin, quand je dis réussis, c'est plus rapide, qui ont eu des réponses plus pertinentes rapidement dans le groupe 1 que dans le groupe 2 et inversement. J'ai été surpris dans le groupe 2 où c'est quand même mon quatrième jour et puis la deuxième fois que je fais ces activités, où je lance une activité, je fais en sous-groupe. À peine je fais un tour par groupe, tout le monde a des exemples super pertinents et super en lien avec la théorie. Je me dis ok, super. Pédagogiquement, super. Maintenant, en termes de gestion de temps, je serre les dents parce que, enfin, je serre les fesses plutôt parce que bah, je pensais que ça allait durer 20 minutes, mais là, en 10 minutes, ils sont pertinents. Donc, c'est ce que j'ai dit, je vais pas aller leur faire réinventer des choses. Donc, ok, on passe à la partie suivante. Mais en passant à la partie suivante, je me prends la tête sur comment je vais rentrer dans mes temps. Et inversement, il y a une activité où le groupe 2 a eu du mal même à comprendre la question, puis ensuite à trouver des réponses, là où le groupe 1 s'est passé comme une lettre à la poste. Donc voilà, je le vois déjà, en fait, dépendant des groupes, les activités vont être différentes. Ce qui rend quand même l'expérience de formation super enrichissante, fatigante. Je suis désolé, je maintiendrai que c'est pas l'activité que je veux maintenir dans toute ma vie et le truc qui me fait kiffer. En revanche, j'y trouve une très grande satisfaction intellectuelle et puis ouais, en termes de réflexion, en termes d'adaptation, c'est un exercice vraiment qui est intéressant. Ça fait vraiment, c'est un jeu. C'est un jeu de société où on doit gérer nos trucs, mais bon. Sincèrement, ça génère tellement de stress et tellement d'énergie pour finalement peu de récompenses que je suis pas sûr. Récompenses, je parle pas financier du tout. Mais en fait, quand je dis peu de récompenses, là, ça s'est vraiment très bien passé. Tout le monde était content. Ils m'ont dit qu'ils étaient contents, qu'ils avaient appris beaucoup de choses. Mais déjà, on ne sait pas à quel point ils m'ont dit exactement ce qu'ils ont pensé de la formation, parce que tout le monde n'a pas parlé et tout le monde n'a pas envie de dire des points négatifs. Et même s'ils ne pensent pas quelque chose de négatif, il y en a qui s'en foutent, dans le sens qu'ils sont neutres, c'est oui, d'accord, je m'en fiche. Et eux, ils vont pas dire je m'en fiche, ils vont dire oui, c'était sympa, parce que je fais au moins en sorte que les formations soient sympas. Et donc, voilà. Moi, mettre autant d'énergie, de réflexion et de stress dans un truc où bah, les gens vont trouver ça sympa et où j'ai aucune assurance que les choses soient appliquées dans le quotidien, c'est frustrant et je ne suis pas sûr que la balance soit totalement alignée. Donc, en fait, je le sais très bien et j'en veux à personne, encore une fois, que une formation, ça change pas la manière dont les gens travaillent. Mais parce que je trouve que le format, il n'est pas dans les gens. Le format, il est dans le format. Enfin, le problème, il est dans le format. Alors, je crois que j'ai dit trop de fois format pour qu'elle soit compréhensible, cette phrase. Le problème, il n'est pas dans les gens. Le problème, il vient du format. C'est-à-dire que croire que ces 2 jours de formation qui vont faire que des professionnels de santé vont changer leur manière de travailler, c'est une aberration. Et je pense pas que c'est dire que le formateur est mauvais que de dire que ça ne marche pas. Je pense que c'est pas en 2 jours qu'on change la manière dont on travaille. Et donc ça re-questionne vraiment bah, la manière dont le monde de la formation fonctionne. Mais je trouve que c'est devenu une fin en soi de former et plus un outil. Et je pense que la formation peut être utile, mais que c'est un outil parmi d'autres. Et que là, par exemple, ça se trouve, ce qu'il fallait, c'est du coaching, du suivi d'une équipe pendant plusieurs semaines pour aller plutôt sur le thème de la création d'habitudes, d'apprentissage, d'y retourner plusieurs fois pour voir s'ils ont acquis, de faire des observations pour voir s'ils ont changé de comportement, et pas juste de leur dire des trucs pendant 2 jours. Ou alors, il y a aussi le problème de c'est pas les bonnes personnes qui sont formées. Là, il y a un argument du fait de dire que obliger en quelque sorte les gens à venir, au moins je forme pas que les convaincus, c'est quand même positif. En fait, bah, ça se trouve, le problème du relationnel entre les professionnels de santé et les patients, c'est pas la qualité des compétences sociales des soignants, c'est peut-être juste un problème de temps, donc un problème d'organisation, donc un problème de management ou institutionnel. Donc en fait, je vais bassiner des infirmières pendant 2 jours sur la relation de confiance qui, en fait, n'ont juste pas le temps de construire une relation parce que y a pas assez de personnes dans les locaux. Et ça, j'en suis conscient. Et c'est vrai que c'est compliqué de, j'allais dire, de mettre autant d'énergie, mais mon psy dirait bah, peut-être pas mettre autant d'énergie. J'ai du mal à lâcher prise sur tout donner, même si ça va de mieux en mieux. Mais c'est compliqué d'essayer de rendre un produit qui est qui est le plus pertinent possible et de se dire qu'au fond, bah, enfin, ça changera pas grand-chose dans la vie des gens. Du coup, c'est vrai que moi, ça me fait re-questionner sur ce que je veux donner, ce que je veux offrir aux personnes que je forme. Je remets quand même un peu plus de degré de satisfaction et de passer un bon moment que d'apprendre des choses, parce que j'ai l'impression que le sujet d'apprendre quelque chose et de l'appliquer est un petit peu raté avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que je pense que c'est se tromper que de se dire qu'on a la prétention de changer les gens en 2 jours de formation. Donc voilà, moi je suis plutôt maintenant en mode je vais faire passer un bon moment, mais pas que un bon moment. Essayer de passer deux, trois idées intéressantes avec un moyen mnémotechnique pour se dire, ok, il y a peut-être une fois un moment dans la vie des personnes où, ah, ce cadre-là, ce moyen mnémotechnique, il va être mis en avant et boum, je vais pouvoir servir à quelque chose. Donc j'essaie de le faire dans cette humilité-là. Qui est pas une humilité de moi-même, de ma capacité, mais une humilité de ma compréhension de ma faible importance dans ce système. Donc là, par exemple, j'aurais adoré, ça aurait été plus pertinent de former, je sais pas, les chefs d'équipe au management plutôt que les infirmières au relationnel avec le patient. Mais ça, c'est aussi un peu mon angle de psychologue du travail. C'est de voir que, en fait, la demande d'une formation, c'est plus un symptôme qu'un besoin. Et que, du coup, c'est un symptôme de quelque chose qui est dysfonctionnant. Et ce symptôme, c'est peut-être pas du tout le sujet propre de la formation. Donc, en fait, ça se trouve, c'est juste la responsable pédagogique qui a envie, je sais pas, de se faire mousser ou de vider la ligne budgétaire et qui prend une formation au hasard. Et du coup, voilà, il faut avoir connaissance du contexte pour évaluer l'impact qu'on a. Et c'est vrai qu'il y a tout ça qui nous vient en tête quand on fait une formation et qu'on veut être utile. On se demande en quoi on peut être utile et est-ce que c'est pertinent de se poser la question de notre utilité aujourd'hui. Voilà, je suis un petit peu parti. Je suis satisfait parce que je crois que j'ai partagé des choses que j'avais en tête assez clairement sans tourner autour du pot, mais je suis un peu parti dans ce sujet. Je sais plus pourquoi, mais ça fait partie des choses qui m'ont marqué en fait, parce que c'est la première version de formation, de ma formation, mon sujet que j'ai fait de A à Z, où je suis allé chercher l'OF de A à Z. Tout le reste, c'était des demandes, des cours sur tel sujet, on me donne les cours, ou alors quelque chose qui n'est pas vraiment mon sujet de thèse. Et là, c'est la première fois que je fais mon sujet de thèse, et du coup, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Donc, pour continuer sur cet aspect formation, je voulais rapidement vous dire ce qu'on doit préparer. Oui, voilà, c'est de ça que je suis parti. On prépare le déroulé pédagogique, les activités 1, 2, 3. Moi, je dois préparer aussi les feuilles d'émargement. Je dois faire signer les gens matin et après-midi. J'ai préparé mon WooClap avec mes questions. Donc, ça fait partie du principe de préparer les activités. Quand j'ai préparé le focus group, bah, j'ai préparé mon guide d'entretien. Et franchement, j'étais pas trop préparé, hein. C'est un sujet chez moi d'essayer d'être trop dans le contrôle et de trop préparer. Là, j'ai encore une fois pu appliquer ce que j'ai vu dans ma thérapie et le fait d'avoir des objectifs mesurables RATP-MER, là, que je vous avais déjà dit, réaliste, non, de mon ressort applicable, bon. Moi, j'ai surtout retenu réalisable et mesurable parce que c'est ce que je faisais pas. Et donc là, j'ai compris que mon investissement dans les projets pouvait être aussi dans ces lettres-là. Et là où avant, je me disais, je vais être le plus préparé possible, ce qui n'est pas du tout réaliste et encore moins mesurable, ben là, je me suis dit, pour être prêt, il faut que je connaissent clairement mon déroulé pédagogique et que j'ai au moins enfin, que j'ai une à deux modalités pédagogiques complémentaires et que je sache clairement ce que je vais faire et dire dans ces modalités pédagogiques. Ce qui fait que bah, si je me dis ah bah tiens là je pourrais faire sur WordClap, bah, je prépare la question et je m'assure que je l'ai fait. Et si je dis ah bah ça je pourrais le faire en mode focus group, que j'ai préparé les guides d'entretien pour le focus group. Et d'ailleurs, c'est pas vous que je devrais dire ça, c'est à mon psy, mais ça marche bien. Si du coup, c'est peut-être à vous que je dois dire ça, mais si vous êtes un peu dans le contrôle et dans la surpréparation, et bah, le fait de se dire qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je me sente préparé, de le poser sur un papier et de faire toute cette liste-là, bah, sincèrement, j'ai déstressé. J'étais très stressé la semaine d'avant, la Martinique, jusqu'à ce que je puisse répondre à tous ces critères-là où je me suis dit c'est bon, je suis prêt. Quand je me suis dit c'est bon, je suis prêt, j'allais beaucoup mieux. Et après, énorme montée de stress au moment du taxi. Ah ouais, ça me fait penser qu'il faut que je parle un peu de cette logistique-là. Quand le taxi est venu me chercher chez moi pour aller à l'aéroport, ça m'a mis un stress pas possible jusqu'à la première formation. Alors, pour le taxi, dans les frais qui sont défrayés, bah, c'est marrant la première fois qu'on le pose, mais on oublie tout ce qui peut rentrer dans ce défraiement. Et en fait, il faut penser à tous les mouvements qu'on fait et à tout ce qu'on va manger globalement. Donc, il y a de chez moi à l'aéroport A, de l'aéroport A à l'aéroport B, donc l'avion, de l'aéroport B au logement B, donc là où je vais dormir, le logement. Les déplacements du logement au centre de à l'hôpital, pardon, au lieu de formation, j'allais dire. Les retours récurrents, les allers-retours entre lieu de formation au logement. Du logement B à l'hôpital B, oh là, à l'aéroport B. De l'aéroport B à l'aéroport A, donc le vol retour. Et de l'aéroport A à mon domicile. Et il faut penser à demander des factures à tout le monde. Le compter dans son calcul de facture d'avance de prêt, d'avance de frais vis-à-vis de l'OF. Et ensuite, prendre en photo toutes les factures, faire le compte, le rentrer dans sa compta, et envoyer une facture sur frais réels avec preuve à l'hôpital pour que l'hôpital nous rembourse. Et on rajoute le manger. Moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que bah, je me suis fait plaisir. Il y a des fois où j'ai pris un petit punch, où j'ai pris du rhum, etc. Et donc là, j'ai demandé deux factures différentes, une facture pour l'alcool, que je me paye avec mes sous, et une facture défrayée, enfin, du coup, pas de facture parce que je m'en fiche des tickets quand c'est perso, et un ticket avec facture pour le reste de l'alimentation qui concerne de l'alimentation normale et pas récréative. Parce que là, l'hôpital me défraye aussi les repas du soir. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire n'importe quoi sur les repas du soir. Et si je buvais de l'alcool, de les payer à mes frais. Donc après, quand on rentre, il faut se dire bah, combien j'ai tiré en argent liquide, combien de cet argent liquide est allé dans quelque chose de perso ou dans quelque chose de pro. Je fais la somme, je fais le point sur toutes mes factures, je prends en photo toutes mes factures et je l'envoie à l'hôpital. Voilà pour le côté défraiement. Pour le côté plaisir, et peut-être que ça peut me permettre de passer dans la partie tourisme, eh ben, c'est vrai que je me suis fait le kiff quand même d'aller à l'hôpital en taxi, sachant que j'aurais pu, et ça aurait été compliqué, mais y aller en transport, parce que défraiement, et parce que bah, il y a le sujet de commencer à me voir comme une entreprise, comme un entrepreneur. Et d'avoir des standards professionnels, en fait, et d'arrêter de se voir comme un étudiant à qui on a la chance de proposer de former, mais de se voir comme bah, je suis formateur, il faut que je sois en forme, et il faut que je me facilite la vie sans être dans le luxe, mais que je me facilite la vie pour être dans des meilleures conditions pour former et pour reprendre le travail un peu après. Et donc, voilà, vrai, vrai kiff de utiliser le taxi pour aller à l'aéroport et d'aller de l'aéroport au logement. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour le côté formation. Sinon, il y a la gestion du décalage horaire, mais je vais vous dire ça plutôt dans le parti tourisme, développement pro, développement perso, parce que bah, c'est vrai que ça n'a pas vraiment nuit à la qualité de ma formation, hein. J'étais fatigué, quoi, et du coup, oui, j'étais pas à 100%, mais comme ça peut l'être en France, quand j'habite à 2 heures du lieu de formation et que du coup, je me suis levé tôt, je suis fatigué. Et puis, dans tous les cas, la formation, c'est fatigant. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Je réfléchis. Je crois que c'est bon, et puis dans tous les cas, on verra si je reviens sur un sujet, mais on va pouvoir passer à la deuxième partie, la partie tourisme slash développement perso, et je vais faire une pause et me prendre un café, parce que je commence à perdre pied, mon cerveau se déconnecte, je suis retourné en France hier, et le décalage horaire fait mal quand même cognitivement. J'ai fait une longue nuit de 14 heures et mon cerveau est ramolli. Donc je fais une petite pause, je prends un café et je passe à l'autre partie. Bon, nous allons maintenant pouvoir passer à la partie tourisme et développement perso. Alors, comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas de faire un guide touristique, mais c'est de quand même pouvoir partager un petit peu ce que j'ai fait en dehors de la formation, puisque ça m'apporte, en tout cas pour que ça reste dans l'objectif du podcast, c'est aussi ce que ça m'apporte et les réflexions que ça m'a fait avoir, que je trouve intéressant de partager. Et puis c'est aussi une partie un petit peu capsule temporelle que je peux faire. Maintenant, je ne sais pas si c'est la fatigue de l'exercice ou si c'est vraiment le cas, mais j'ai l'impression que j'ai moins de choses à dire maintenant que j'en ai dit beaucoup de choses dans la première partie. Donc on verra. J'avoue que je ne pensais pas faire aussi long sur la partie numéro 1. On verra pour la partie numéro 2. Alors, la première chose qui me vient sur ce côté tourisme, c'est le stress, évidemment, qui nuit pas mal à la qualité de la formation, mais aussi au premier moment. J'avoue que... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé. Ouais, j'ai pas parlé de l'avion. Je vais peut-être faire en mode chronologique parce que c'est difficile de se rappeler et de faire des thématiques. Bah déjà ça, oui. Donc ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où le taxi est venu me chercher chez moi, le stress était à bloc. Bon, vous le savez maintenant, le stress, ça va. Je gère, je connais. C'est mon meilleur ami. J'ai une relation conflictuelle avec lui, mais on se connaît très bien. Donc je sais ce que c'est. Je le vis bien parce que je connais cette sensation. Donc je sais que c'est du stress. Je sais pourquoi c'est. Mais bon, évidemment, je me sens pas bien. Même dans l'avion, je pensais qu'une fois que l'avion partit, ça irait. Bon, c'est vrai que ça va, c'est baissé. J'ai beaucoup mieux apprécié l'aller que le retour. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre l'avion, je pensais que le retour dans la nuit serait une bonne idée. Bah, pas du tout, hein. En tout cas, moi, je suis assez grand, donc déjà que j'ai peu de place pour mes jambes. C'est très difficile pour moi de s'endormir dans l'avion. Ce qui fait que je m'étais dit, ça va, je pourrais dormir un peu. Je savais que ce ne serait pas une très bonne nuit, mais je pourrais m'endormir un peu. Et puis, je rentre à 10 h heure locale. Voilà, je refais ma journée. Ça me recale quasiment comme une petite mauvaise nuit. Mais en fait, non, j'avoue que j'aurais préféré partir 2 jours. Quitte à faire en sorte d'atterrir le soir, c'est parfait. En fait, c'est ce que j'ai fait à l'aller. À l'aller, départ 14 h, heure française, et j'arrive à 18 h 30 en Martinique. Donc, il y a moins 5 heures de décalage. Donc, quand on est en Martinique, il y a plus 5 heures. Ça veut dire que j'arrive à 18 h heure locale, mais dans ma tête, il est 23. Ce qui fait qu'en fait, quand la formation commence à 7 h 30 et qu'on doit se lever en gros à 6 h parce qu'on ne sait pas exactement où c'est et on veut prendre de l'avance, bah ça va en fait de s'endormir tôt. Hein. À 20 h, on est mort et donc on arrive à faire des belles nuits. Donc à l'aller, c'est cool parce que bah, on est censé se lever tôt pour le rythme de l'île. Mais en fait, on est un peu forcé par notre décalage à se coucher tôt. Le soleil se lève tôt, les jours d'après, le soleil se couche tôt. Donc, vu qu'on est fatigué dans notre tête et qu'en plus, il fait nuit, bah, à 21 h, 22 h, je dormais. Ce qui fait que pour le sommeil, ça allait. En revanche, le stress, j'avoue que je m'attendais à stresser, mais je m'attendais quand même à aller mieux après la première journée. Et donc, c'est vrai que. Après la première journée, il y a tout un truc de. Mais je crois qu'en fait, le décalage horaire jouait beaucoup parce que ça allait mieux après. Je m'attendais à finir ma première journée, à me dire c'est bon, c'est passé, maintenant il y a juste à former et à kiffer. Et en fait, non, on est ravagé par le stress, ravagé par la fatigue. En plus, je vous expliquais un peu en quoi la formation était fatigante. Et du coup, on est mort. Et il y a un truc. Donc moi, l'hôtel était à 15 minutes à pied de l'hôpital. Et en fait, je rentrais quand même à l'hôtel pour poser mes affaires, mon PC, etc., partir léger. Et en fait, je prenais une douche. Et en fait, quand on a formé pendant 7 heures, qu'on s'est levé à 6 heures, que dans notre tête, il est plus 5 heures, et qu'on vient de prendre une douche, c'est très dur de se motiver à ressortir. Et en fait, c'est très dur pour plusieurs raisons. Alors, il y a une belle partie fatigue quand même, mais il y a quand même une partie de peur. Et je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes parti seul déjà, mais j'avoue que partir seul loin, et encore c'est francophone, hein, partir seul loin, c'est vraiment une aventure particulière. Je trouve qu'on se redécouvre un peu. Et bah, ça fait peur. Et ça, par contre, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que déjà le premier soir, aller au resto tout seul, je me suis dit, mais je sais pas à quoi faire. Alors qu'il suffisait d'aller au resto. Donc, à chaque fois que j'ai eu peur, quasiment, j'ai fait les choses qui me faisaient peur. Mais ouais, en fait, tout est quand même plus dur hein, de voyager, de plus dur de se laisser aller. En tout cas, pour moi. Hein, d'aller au resto, d'aller boire un coup, de prendre le bateau. À chaque fois, il y a un peu plus de frein que s'il y avait quelqu'un avec moi. Et donc ça m'a étonné, que vraiment, beaucoup de choses demandent du courage. Donc ça m'a quand même dit que j'étais courageux, parce que le courage, c'est de savoir aller au-delà de ses craintes. Et donc vu que j'ai eu des craintes et que je suis allé au-delà et que j'ai fait les trucs, je suis courageux. Par contre, je suis pas si à l'aise que ce que j'aurais pensé. Parce que je pensais que je n'aurais pas besoin de tant de courage pour faire des choses. Et donc, je suis étonné du fait que j'ai été stressé et qu'il m'a fallu quand même mobiliser des ressources pour sortir, voyager, prendre le bus, etc. Parce que tout est nouveau, tout fait un peu peur. Tout fait peur parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et donc, je me suis quand même surpris à être plus stressé que d'habitude. Enfin voilà, aujourd'hui, là en France, en métropole, si on me demande de prendre le bus tout seul ou le train ou un blablacar, bah, il n'y a pas de souci. Mais bizarrement, là aussi loin, bah, il y a des freins quand même qui viennent. Et donc on se voit quand même face à soi-même, face à ses craintes et face à son propre courage de se dire, mais si ça tenait qu'à moi, mais, en fait, mais d'ailleurs en fait c'est ça le truc, c'est que tout ne tient qu'à moi. Bah, je change de sujet du coup en ayant dit cette phrase, mais ça me fait penser au fait que ce qui est compliqué aussi, c'est que tout tienne à mes envies sur le moment et que parfois les envies sont pas claires et que beaucoup de choses viennent de la fatigue et du décalage horaire. Et en fait, quand j'étais tout seul, il y avait aussi un fait de se dire, est-ce que enfin, on a l'impression des fois de faire les choses pour avoir des choses à raconter et pas vraiment parce qu'on en a envie. Et moi, j'ai eu un souci le deuxième jour. Bon, du coup, je ne fais pas du tout chronologiquement, mais je le fais comme ça me vient. Le deuxième jour, j'étais bloqué dans ma chambre d'hôtel, mais parce que j'étais mort. Et en fait, c'est si simple que ça, mais. Bienvenue dans ma tête, j'ai réfléchi dessus toute la fin d'après-midi. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai peur de faire des trucs? Est-ce que, en fait, j'ai juste pas envie de faire des trucs et je suis quelqu'un de solitaire? En fait, c'est ça, ça m'a remis face à moi-même en me disant, mais est-ce que j'ai peur de la vie? Est-ce que je suis juste fatigué? Est-ce que je suis un globe-trotteur? Est-ce que je suis associable? On ne sait pas vraiment parce que. Bah, à chaque fois que je suis parti loin, je suis parti avec quelqu'un, et c'est plus facile de décider ce qu'on a à faire. Et en plus, clin d'œil à toutes les personnes qui sont en couple, c'est plus facile de cracher sur l'autre quand on n'est pas satisfait de l'activité plutôt que de se laisser aller à ses envies pile poil sur le moment. Et du coup, c'est vrai que je serais un peu plus indulgent avec les personnes avec qui je voyage dans le futur parce que. On a l'impression que des fois on est frustré par les choix de l'autre, etc. Mais en fait, décider soi-même, c'est pas simple. Et puis même quand on décide, on finit par être déçu et par se dire j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça plus tôt. Là finalement, j'aurais préféré sortir. Et donc je me voyais face à des gens pouvoir me dire ah non, mais t'as envie de sortir, faut profiter. Alors qu'en fait là, moi, il y a un jour où Il fallait que je me pose, c'était le jour 2. Je pense que je rentre dans le rythme de fait, mais pas en réalité. C'est-à-dire que de fait, je me lève à 6 heures pour former, je forme 7 heures et après, faut aller, il faut aller. C'est comme ça que je le vivais. Il faut aller sortir, visiter le truc. Mais en fait, on vient quand même de se taper une formation de 7 heures. Et c'est comme si je vous disais, vous rentrez chez vous à 18 heures, allez, on se douche et on ressort, on va marcher 15 km, etc. Parce que j'ai fait beaucoup de choses à pied aussi. Donc il y a un gros sujet autour de je suis face à moi-même, est-ce que j'ai la flemme, est-ce que je suis fatigué, qui je suis en expédition, est-ce que j'ai vraiment envie de bouger partout tout le temps comme ça. Et donc jour 2, j'ai rien fait, je suis resté dans ma nuit d'hôtel, j'ai fait un gros truc de métropolitain qui est de me commander un tacos et de le manger dans ma chambre d'hôtel. Et en fait, j'ai très bien fait de faire ça. Donc là, par exemple, personnellement, j'ai eu une réponse de non, j'étais vraiment fatigué, sans aucun repère. Et le fait de devoir ressortir tout de suite, là, il fallait que je me pose. Et pourquoi je le sais? Parce que dès le lendemain, j'avais tout de suite envie de faire des choses et j'avais prévu ce que je devais faire, etc. Donc ça allait beaucoup mieux. Ça me fait penser au fait que je suis vraiment parti dans ma tête pour le travail et pas pour les vacances. Ce qui fait que l'après-midi, je savais pas trop quoi faire. J'ai pas regardé, j'ai pas planifié. Et du coup, bah, je me balade et il y a ce truc de. J'entends parler des trucs que j'ai envie de faire sur le moment. Et en fait, ça demande quand même un minimum d'organisation parce qu'il y a des trucs où il faut gérer les tickets, il faut réserver, il faut prévoir son retour si c'est loin. Et en fait, vu que je faisais les trucs en les faisant et pas en les planifiant, bah, il y a plein de trucs où je me dis, ah ouais, mais je ferai ça le jour d'après. Puis le jour d'après, je sors 1 heure plus tard et ça devient compliqué. Enfin. Il y a aussi le truc pas facile de. Bah, il fait quand même une nuit à 18h30. Donc, il faut assez s'organiser pour pas être perdu à 19h, parce que être perdu en pleine nuit, c'est tout de suite plus compliqué. La vie s'arrête quand même un peu plus tôt. C'est-à-dire que le premier soir, j'ai fait le tour de Fort-de-France. Et en fait, moi, je travaille fin de formation à 15h30. Je suis dans mon hôtel en gros avant 16h. Je pars bah, les premiers soirs, j'ai un peu tardé. Donc, je pars à 17h. J'arrive en ville à 17h30. Mais en fait, les commerces, ils ferment. Et même les commerces de vente et tout. Et en fait, entre 17h30 et 19h, même les bars sont pas forcément encore ouverts. Il y a une période un peu de creux en semaine où la nuit tombe. Dans notre tête, il est minuit. Heure locale, il est 19. On comprend plus rien. Enfin, ouais, non, c'est pas exactement 19, mais voilà, ça fait un truc de où je suis, quoi. Et c'est vrai que ça m'est arrivé les 2 premiers jours de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Le premier jour, c'était un peu positif, un peu le kiff, genre, mais c'est incroyable que je sois là. Et le deuxième jour, il y a vraiment eu un truc de, mais qu'est-ce que je fais là? De se rendre compte un peu qu'on est seul, de se rendre compte qu'on fait 6 000 km pour former sur sa thèse. Il y a un truc qui rentre pas dans le cerveau, mais qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans la première partie, mais quel plaisir hein, de former sur sa thèse. Je pourrais en refaire 1 heure, mais je vais pas vous servir à un podcast aussi long. Mais, ouais, en fait, j'en ai déjà parlé autour de moi à ce sujet, et j'ai l'impression de me répéter à ouvrir cette partie-là. Mais de voir la reconnaissance et même de voir à quel point je peux inspirer, mais à quel point on m'inspire. C'est incroyable. J'ai eu des nouvelles idées sur ma thèse grâce à eux. Et ça, c'est fou. Mais c'est vraiment fou. Fou est le vrai mot. C'est-à-dire que se reprendre un peu dans sa tête que je suis en train de financer ma thèse en parlant de ma thèse à l'étranger, en étant payé, en étant quand même bien payé, même si je dis pas les chiffres. Waouh. Juste incroyable. Et je sais plus pourquoi je suis parti dans ça. Ah oui, il y a quand même un truc de, mais qu'est-ce que je fais là? Un truc de vide, de on se fait embrasser par la solitude. La solitude nous pèse dessus et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que je dois faire? Et là, je suis censé, après 7 heures de formation, me balader à droite à gauche et je ne sais pas ce que je dois faire. Et dans ce vide-là, il y a eu des moments quand même un peu, j'allais dire négatifs, mais bah, de moins bien vécu en mode. Le grand vide. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû commencer comme ça parce que du coup, mais en fait c'est intéressant parce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi, si je devais résumer cette expérience, je dirais qu'elle est riche et incroyable. Et je ne dis pas incroyable comme tout le monde dirait incroyable, mais vraiment incroyable, dans le sens où ça m'a beaucoup choqué à plusieurs reprises de me dire mais c'est fou que je sois là, c'est... Enfin, je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté du monde à parler de ma thèse, à être payé pour ça, c'est incroyable, impensable de dire ça au Bip Bip épisode 0, saison 0. Et j'ai eu beaucoup de moments de réalisation comme ça, avec des, je vous cache pas, des petites larmes qui ont coulé en mode ça y est, on y est, c'est vraiment, je vis vraiment ce que je voulais vivre. Mais ce qui rend les choses riches et pas forcément ultra joyeuses, ça. Ça, je renvoie un peu à l'épisode 0 de la saison 4. C'est le parcours est tellement riche et long que bah, ça justifie l'idée de vivre. mais c'est pas du bonheur léger, en fait. C'est du bonheur de waouh, tout ce qui s'est passé, c'est fou quand même. Mais au-delà de ça, du coup, de ces moments un peu émus et puis de ces moments de doute. J'ai eu beaucoup de moments de kiff et je suis très content de bah, d'être sorti de ma zone de confort. Donc c'était quand même pas des vacances. Aujourd'hui, je conclurai quand même pas en disant que c'était des vacances. Mais j'ai vu des choses magnifiques. Donc là, je vais pouvoir dire des choses qui ceux qui connaissent la Martinique pourront me juger ou me trouver inintéressant. Mais le coin que j'ai le plus aimé, c'est les Trois-Îlets. Donc en fait, quand on est à Fort-de-France, on peut prendre une navette qui va au sud de l'île. Et là, j'ai trouvé vraiment les paysages, certes très, très touristiques quand même, mais vraiment paradisiaques, sable clair, fin, de l'eau où on voit ses pieds, etc. C'était vraiment magnifique le sud. Là où Fort-de-France, j'étais un petit peu déçu finalement. Ça fait pas très touristique, donc en fait c'est bien parce que mon âme de globe-trotteur se disait ok, je suis vraiment dans la vie des gens, etc. Je suis pas dans un truc préfabriqué pour les touristes. Mais ouais, en fait l'office du tourisme ferme à 16h, donc moi toujours en retard. Et en fait on a du mal à comprendre comment la ville s'organise parce qu'on n'est pas guidé et du coup voilà, vu que je suis pas venu en touriste, j'ai pas trop regardé comment c'était fait et donc me suis beaucoup baladé à pied, ce qui fait que j'ai beaucoup pris la température de la ville. À la limite, pas comme un touriste parce que je me suis perdu dans des quartiers qui faisaient pas touristique. J'ai vu beaucoup de rats. À un moment vraiment, j'ai vu une dizaine de rats. Mais donc très content de vivre vraiment dans la ville, d'avoir vécu vraiment dans la ville. Mais ouais, un peu un manque de cadre pour me dire je vais aller là, je vais faire ça, je devais aller là. Le bon plan, c'est de faire ça. Mais je me suis bien baladé à Fort-de-France le premier jour. Deuxième soir, off. Troisième soir, et en fait, mon meilleur, c'est aller aux Trois-Îlets, prendre la navette et aller au sud. C'était vraiment magnifique. Je me suis même un peu perdu à un moment. J'ai demandé ma route pour voir un coucher de soleil. Je me suis perdu, je suis tombé sur une plage privée, puis j'ai revoyagé. Vraiment, c'était le soir qui me restera en tête, je pense, parce qu'ensuite je suis tombé sur une plage où j'avais une vue du coup sur tout le reste de l'île. Et en fait, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est les maisons en. En fait, c'est très vallonné et je ne le savais pas. Hein. Donc là, je dis sûrement des trucs pour ceux qui connaissent qui sont nuls. Mais moi, ce qui m'a choqué, ce que j'ai le plus retenu, c'est à quel point les maisons sont les unes sur les autres. Et du coup, de loin, la nuit, avec les lumières, c'est magnifique parce que ça fait comme une montagne avec plein de lumières dessus. Et ouais, je me souviens d'un. Je pense que le soir qui me, enfin le moment qui me restera le plus, c'est celui-là. C'est je me suis pris une pizza à emporter, je l'ai mangée sur la plage avec cette vue magnifique et j'ai vraiment passé, je crois, 3 heures sur la plage à regarder la vue et à réfléchir à plein de trucs et ouais, c'est le moment que je retiendrai le plus. Ça me fait penser aussi que j'ai profité de ce cadre pour quasiment pas écouter de musique, ni de podcast, ni de vidéo YouTube, parce que je suis un gros consommateur de YouTube. Et ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, je m'étais dit, il faut, j'avais, en fait, j'avais quand même envie de voyager, pas comme un touriste, mais un peu plus comme un globe-trotteur. Et du coup, je reviens au sujet, est-ce que j'ai peur ou est-ce que je suis un globe-trotteur? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que c'est plus difficile d'aller dans des restos, dans des bars, faire des trucs, prendre le bateau quand on est tout seul. Mais je pense aussi que j'aime bien vivre des vacances un peu solitaires, un peu où je trouve un petit coin paradisiaque tout seul. Donc ça fait partie des choses où je me suis découvert. Et pareil pour la musique, vraiment prendre la température, vivre avec les gens, vivre avec les sons, les odeurs, les discussions, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis de me redéconnecter un peu à tous les médias que je pouvais avoir. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné une bonne occasion de rompre un peu mes mauvaises habitudes, comme les mauvaises habitudes de sommeil, où j'avoue que ces dernières semaines, je tardais de plus en plus le sommeil et c'était, je me levais de plus en plus tard, donc je me couchais de plus en plus tard, j'étais pas content de la manière dont je travaillais, je commençais à avoir du mal à courir le matin. Bah là, ça remet un peu les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire avec le décalage, parce que bah, déjà là-bas, heure locale, j'étais couché vers 22 voire 21h, levé vers 6h, 6h30. Et en fait, là, j'ai quasiment envie d'avoir ce rythme-là, donc heure parisienne, mais j'avoue que, bon, 21h, ça va, j'ai pas 80 ans, mais se coucher tôt, se lever tôt, travailler et ensuite avoir toute l'aprem, tout le jour pour faire plein de trucs, c'est un rythme qui m'a beaucoup plu. Donc je vais reprendre un rythme en me couchant un peu plus tôt et en me levant tôt naturellement. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'il faut que je retrouve. Bah, voyager et du coup en profiter pour se déconnecter et avoir d'autres horaires, c'est pas mal. Autre sujet, j'ai visité, donc ça c'était alors jour 1 Fort-de-France, jour 2 rien. Enfin formation, mais ensuite tranquille à l'hôtel. Jour 3 Trois-Îlets. Jour 4, je ne sais plus. Ah si, jour 4, je suis allé à Schœlcher, je crois. En fait, il y a des mots que j'ai entendus dans ma vie que en martiniquais. Ça veut dire que dans ma tête, c'est produit avec l'accent martiniquais. Donc je vous épargne mon accent martiniquais. Mais du coup, dans ma tête, il y a l'accent martiniquais quand je dis les mots. Donc celui-là, je l'ai entendu qu'en martiniquais, enfin qu'avec l'accent un peu martiniquais. Et donc, je ne sais pas le dire en français de métropole. Donc Schœlcher, je crois. C'est une petite ville à côté de Fort-de-France et j'y suis allé à pied. Je suis tombé sur une magnifique, je pense que c'est mon top 2 du coup des lieux, une petite crique où en fait c'est censé être un espace privé mais pas vraiment. On passe dans un hôtel et on finit sur un truc de 200 mètres carrés. Magnifique, c'est ce qu'on peut attendre d'une petite plage, des îles avec les cocotiers, l'eau bleue, etc. Je suis pas resté très longtemps parce qu'ensuite je voulais voir la ville de Schœlcher. Bah, j'étais frappé du fait que les routes étaient difficilement praticables à pied. Donc j'avoue que si vous y allez pour marcher dans les villes, c'est compliqué. Là, on finit sur une nationale sans le vouloir. Donc ça m'a contraint de prendre le bus. J'ai pris le bus pour quelques arrêts. Bah, j'ai pas été convaincu de Schœlcher. C'était sympa. J'ai mangé dans un resto sympa. Voilà, j'ai pas retenu grand-chose, si ce n'est, bon, j'aime beaucoup le basket et j'adore voir les beaux endroits où on peut faire du basket. Donc il y a un bel endroit où on peut faire du basket, ça m'a donné envie de jouer avec les autres. Mais bon, là pour le coup, j'ai manqué de courage. J'étais à deux doigts de demander, mais voilà, là pour le coup, manquer un petit peu de courage. Et c'est en ça que ça m'a surpris de me dire, ah, je ne suis pas si à l'aise en société que ça. En tout cas, quand on est loin, ça change. J'allais dire, mais je regrette pas. Bah, c'est vrai, j'aurais pu regretter, mais voilà, je sais qui je suis et je comprends pourquoi je l'ai pas fait, donc tant pis. Voilà, Schœlcher, ça m'a pas convaincu. Ensuite, quatrième, bah, du coup, cinquième soir, enfin, cinquième journée, en fait, j'ai pris le temps d'aller à Saint-Pierre, qui est une ville plus au nord de l'île, et là, il faut faire 1 heure de bus. Donc c'est pour ça que j'attendais. En fait, j'ai eu mon samedi. Donc je suis parti le samedi soir. Bah, le samedi, je formais pas. Donc en fait, j'ai eu le samedi toute la journée pour pouvoir visiter. Et Saint-Pierre, c'est très joli, mais c'est très joli. J'allais dire, c'est très joli de loin. En fait, c'est très joli partout, mais quand on y est, bah, j'ai pas su trop quoi faire. Après, je pense aussi il y avait la fatigue de la semaine. Et il y avait parce que il y a un moment où j'ai dû faire une sieste sur la plage parce que j'étais mort. Et là, il y a eu un peu d'ennui. Il y a eu un peu en fait le fait de savoir qu'on part le soir même. Ça gâche le truc, on a l'impression de s'occuper pour s'occuper, et c'est vrai que j'ai pas, c'était pas le moment que j'ai le plus apprécié. Par contre, le fait de longer en bus, c'était magnifique, ça me donne un peu plus l'impression d'avoir connu l'île, et d'y être allé, je suis très content. Ça fait partie de mes plus belles photos. L'endroit est très joli et très bien placé. On voit le Montpellier. Bon, moi j'ai pas pu le voir entièrement, il y avait des nuages, mais franchement très bel endroit. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est le zoo, qui s'appelle le zoo de Martinique, et qui est à Saint-Pierre. Et là, c'était. Bon, je me suis un peu dit, je suis vraiment le touriste typique. Mais, et bah, vraiment sympa, parce que tous les animaux qui sont sous serre dans les zoos en métropole sont à l'air libre là-bas. Et en fait, ça fait vraiment. C'est vraiment nous qui entrons dans leur monde et pas l'inverse. Ils n'ont pas l'air d'être en captivité, leurs environnements sont ultra ouverts. Et puis, je sais pas, on sent qu'ils sont dans un climat naturel. Et du coup, j'ai vu des animaux que j'avais jamais vus, de très près en plus. Donc, franchement, je recommande, c'était magnifique, ça faisait vraiment jungle. Et en plus, c'était dans la jungle. Donc, ça fait vraiment. On a entretenu un bout de jungle, on a rajouté 2-3 spécimens et on a mis des grillages et vous avez le droit de vous y balader, quoi. Ça fait pas du tout. On a implanté un zoo en périphérie de Poitiers. Donc très sympa. Retour en bus, puis j'ai pris beaucoup d'avance pour l'aéroport. Et voilà le retour. Et maintenant, je me tape le jet lag, comme disent mes amis entrepreneurs. Je me tape le décalage horaire. Et donc là, j'enregistre jour 1 après mon retour. J'ai fait une grosse nuit de sommeil et bah, je vais voir comment je gère ça. Là, j'ai pris quelques jours cette semaine. Je pense pouvoir vous dire avec assurance qu'il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine, tout simplement parce que lundi, mardi, mercredi, je suis en vacances. Et ensuite, ça va être la reprise, puis ensuite, je vois des amis le week-end, enfin franchement. À part si j'ai une thématique qui vient d'une autre semaine que j'ai à vous dire. Sinon, bah, la Martinique, ça a pris tout mon temps et toute mon énergie de ces derniers temps. Je crois pas avoir de choses pertinentes à vous dire. Donc voilà. Ça se trouve, je ferai 10 minutes ou 5 pour dire j'ai bien été récurrent et hebdomadaire. Mais comme je le vois, je vais vous laisser tranquille. De toute façon, ça va faire un long podcast. Donc comme ça, vous allez avoir 2 semaines pour l'écouter. Voilà, je pense que je vais pas m'étendre plus que ça. Déjà que je me sens coupable de juste avoir raconté ma vie, mais c'est un peu la période capsule temporelle où j'ai pu expliquer ce que j'ai fait. J'ai goûté évidemment des acras, j'ai goûté évidemment du rhum que j'ai apprécié, mais bon, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Si je peux parler au moi du futur. Dire souviens-toi des premiers acras que tu as mangé dans le restaurant à Schœlcher, que tu es rentré et que tu as glissé et que tu as failli te fêler une côte. Donc je vous le dis pour l'anecdote, mais je le dis pour la capsule. Souviens-toi de la vue et de la pizza aux Trois-Îlets. Souviens-toi des rhums et que tu préfères les rhums vieux. Et puis souviens-toi que tout le monde a kiffé. Et que toi aussi. Voilà, dans l'espoir que c'était pour la première partie informatif et pour la deuxième partie divertissant, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine lundi pour, ou peut-être celle d'après, pour un nouvel épisode de Bip Bip.